Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Mathieu Sylvander. Bonjour Mathieu.
Bonjour Claire.
Avec qui je vais parler de son roman jeunesse qui s'intitule Vladimir Sergueïevitch aux éditions L'École des Loisirs. On en parle dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, eh bien aujourd'hui, je n'ai qu'une petite info. Pour vous rappeler que, eh bien, aujourd'hui, 23 juin, débute le marathon des mots dans votre ville rose jusqu'à dimanche 26. Tous les renseignements sur www.lemarathondesmots.com ou au numéro de téléphone suivant 05 61 99 64 01. Et puis, vous avez bien sûr tout le programme détaillé et en dépliant dans tous les lieux culturels de la ville de Toulouse. Et puis vous dire qu'il y a un petit, justement par rapport à ce programme, qu'il y a un petit changement. Et donc il y a une lecture demain soir, donc vendredi 24 juin au TNT à 20h. C'est un hommage à Georges Semprun, Jorge Semprún, un auteur espagnol, par Catherine Allégret et Boris Terral. Donc c'est au TNT demain soir à 20h. Ce n'est peut-être pas signalé dans la plaquette du programme dépliant, donc c'est pour ça que je vous le signale. Donc bon marathon à tous.
Page à page, Claire Ambille. Pou, pou, pitou.
Je fais un petit salut à Edgar qui s'occupe de l'émission aujourd'hui. Merci Edgar. Alors je me tourne vers mon invité, Mathieu Sylvander. Nous nous étions rencontrés au Salon de Montgiscard en janvier dernier, au Salon du Livre de Montgiscard en janvier dernier.
Tout à fait.
Et je vous avais posé la question, donc de quoi parle votre livre? Et vous m'aviez répondu, c'est l'histoire d'un petit loup qui est végétarien, qui est mangeur de pommes.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et donc, ça avait vraiment piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, voilà, maintenant je connais l'histoire de Vladimir Sergueïevitch. Et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui, là tout de suite, sur Radio Occitanie. Alors, on va d'abord un petit peu parler de vous, Mathieu. Vous êtes originaire de Haute-Savoie?
Oui, Annemasse, à côté de Genève.
D'accord, donc plutôt plaine, mais enfin avec les montagnes pas loin.
Voilà.
Voilà. Et puis donc vous êtes Toulousain d'adoption, donc région des Pyrénées, donc d'autres montagnes là, voilà.
Des montagnes un petit peu plus basses, mais aussi intéressantes. Aussi
mais
belles.
Aussi intéressantes, et puis d'ailleurs qui vous servent, enfin entre guillemets, de décor pour votre métier, parce que vous êtes sismologue.
Oui, c'est ça, je m'occupe de la surveillance sismique des Pyrénées, donc j'ai fréquemment l'occasion de me rendre dans les Pyrénées pour mon métier.
Voilà, vous vous occupez du réseau de surveillance sismique des Pyrénées. Donc, alors, vous n'avez pas de scoop à nous apprendre là sur Radio Occitanie, il n'y a pas de secousse sismique en vue imminente dans les Pyrénées?
Eh bien, hélas, on est absolument incapable de prévoir les tremblements de terre, donc je ne peux rien vous dire. C'est pas de la météo, hein. Nous, on ne sait pas prévoir
les tremblements de terre. Oui, c'est pas la grenouille de la météo.
C'est vraiment trop compliqué, on ne peut pas le faire.
Ouais. Donc c'est pour ça que des fois qu'il y a des catastrophes comme ça, parce qu'on n'a pas su, enfin on n'a pas pu prévoir avant?
Ah non, on ne peut pas, c'est physiquement impossible, enfin en tout cas pour l'instant dans l'état actuel des connaissances, tout ce qu'on sait faire c'est les enregistrer, les cartographier, voir quelles sont les zones à risque, mais on ne peut pas dire à quel moment, à quel endroit et avec quelle force un séisme se produira.
D'accord.
On en est incapable. Je ne sais pas si on sera capable un jour.
Bon. mais enfin, comme vous me le disiez tout à l'heure hors antenne, dans les Pyrénées, l'activité est faible.
Elle est
modérée.
Très modérée. Elle est
oui,
très
voilà.
Modérée.
Donc rassurez-vous, voilà. Chers amis auditeurs, même si on ne peut pas prévoir les secousses sismiques, elles sont quand même assez faibles dans la région.
Dans leur très
région.
Grande majorité, oui.
Bon, tant mieux. Alors, votre passionnant métier, donc votre passion aussi pour votre métier, vous la faites découvrir à des classes de primaire et de collège de
oui,
la région.
Voilà, c'est ça. J'interviens assez souvent dans les écoles et les collèges pour leur parler des tremblements de terre de façon générale.
Et leur dire qu'on ne peut pas prévoir aussi.
Leur dire qu'on ne peut pas prévoir. Je leur montre du matériel, je leur montre des petits ateliers, des petites expériences.
Oui, les sismographes.
Oui, je viens souvent avec des appareils qui leur montrent comment on enregistre les séismes. Bon, Je fais des topos assez complets hein, sur les tremblements de terre.
Et accessibles, vous les rendez accessibles, oui. Parce que ça c'est voilà. Bien, parce qu'il y a voilà, des scientifiques qui n'arrivent pas à rendre accessible ce qu'ils savent.
Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le public des plus jeunes parce qu'ils sont vraiment intéressés, curieux, oui. Ils ne sont pas blasés, pas encore.
Heureusement.
Ils ne savent pas encore tout. Donc
bon, maintenant il y a des grands aussi qui ne sont pas blasés. Hein,
oui, c'est vrai.
Heureusement. Donc les enfants quelque part vous connaissez enfin entre guillemets vous en avez donc vous êtes papa de 3 enfants
ouais,
donc
c'est ça.
Vous êtes un petit peu je dirais habitué à avoir ce public par exemple pour vos livres hein, parce que Vladimir Sergeïevitch n'est pas votre premier livre donc voilà donc j'imagine qu'il y a des testeurs à la maison
oui ce sont mes premiers lecteurs oui,
ah ben
bien
voilà.
Sûr.
Donc pour votre métier, c'est un peu pareil aussi. Ouais. Vous avez testé aussi votre,
oui,
voilà,
fait,
votre
oui.
Pédagogie, entre guillemets, auprès d'eux.
Oui, je suis intervenu dans leur classe en premier.
Ah oui, oui. Ah bah, ils devaient être fiers.
Oui, alors pour ma fille aînée, je suis intervenu dans sa classe et l'institutrice était assez épatée parce que bah, je connaissais tous les enfants, je les appelais par leur prénom et elle ne s'attendait pas à ça.
Ah bah oui, 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 non mais c'est... Alors, et qui sait, peut-être que dans l'un de vos prochains livres, vous glisserez un peu de votre passion pour les mystères de la Terre ?
Ouais, en fait, mais c'est même prévu, hein. Enfin,
ah.
C'est pas encore en cours de rédaction, mais c'est prévu. L'éditeur m'a sollicité pour essayer de faire quelque chose dans ce sens.
Toujours le même, j'imagine, l'école
des
loisirs.
Oui, toujours l'école des loisirs. Essayer de faire quelque chose qui soit à la fois scientifique et puis un peu rigolo, parce que c'est un peu mon créneau.
Oui,
quand
parce
même.
Que voilà, il faut quand même que ça soit accessible déjà, puis voilà le côté ludique,
voilà,
le côté
j'ai
plaisant.
J'ai pas du tout envie de faire des choses sérieuses pour les enfants.
Non,
c'est
mais
pas mon genre.
Bah, tant mieux. Tant mieux, puis bon. Ce livre-là dont on va parler est plein d'humour, donc surtout gardez cet humour, j'aime beaucoup. Alors justement, donc, on le disait, donc vous êtes sismologue, mais vous êtes aussi auteur de livres jeunesse. Alors l'écriture de votre premier livre jeunesse est partie d'une histoire, vous voulez bien nous la raconter, une histoire assez rigolote, quoi, je trouve.
Oui, alors à cette époque, ma fille aînée était en CP, elle avait 6 ans. Et comme beaucoup de parents, je lui racontais des histoires. Hein, je lui racontais des histoires, je lui lisais des livres, mais je lui racontais aussi des histoires que j'inventais moi-même. Et un jour, j'ai eu envie de coucher sur le papier une de ces histoires pour qu'elle soit un petit peu plus structurée et pour qu'il en reste quelque chose. Et comme elle était petite et qu'elle ne savait pas encore suffisamment bien lire, j'ai fait moi-même des petites illustrations. Bon, je ne dessine pas très bien, hein, c'était du crayon à papier sur des feuilles d'imprimante. Vous savez, ces feuilles d'imprimante à aiguille avec les petits trous sur les côtés.
Oui,
voilà.
Oui, d'accord.
Il me restait encore un petit stock de ça. Donc j'ai dessiné là-dessus. Et donc j'avais avec quoi, une trentaine de feuillets. Et donc ma fille a, dans mon dos, pris ces 30 feuillets et les a emmenés à l'école pour le montrer à sa maîtresse. Elle dit, regarde maîtresse, ce que mon papa a fait. La maîtresse a pris connaissance de ce truc-là et puis elle a montré ça à ses collègues. Et puis surtout, elle a décidé qu'elle allait faire travailler tous les enfants de sa classe dessus. Donc elle a photocopié, elle a fait même un travail d'éditorial, elle a scanné, elle a réécrit le texte, elle a distribué à tous les enfants. Et ils ont travaillé dessus. Donc, je me suis dit, si ça peut intéresser une maîtresse
et
une trentaine d'enfants,
oui, voilà, ça
pourquoi
peut,
pas, pourquoi pas aller un peu plus loin
plus grand,
et
voilà,
essayer d'aller chercher plus large.
Tout
voilà.
À fait.
Et pour ça, donc, j'avais besoin de quelqu'un qui illustre vraiment, puisque moi, j'en suis pas capable. Je me suis tourné vers ma sœur, qui a un bien meilleur coup de crayon que moi, sans être professionnelle. Et,
oui, parce qu'elle est...
voilà, elle est institutrice, elle.
D'accord.
Voilà. Et donc, nous avons... elle m'a dit, d'accord, je vais essayer. Nous avons fait une première version des illustrations et nous l'avons envoyé à un certain nombre d'éditeurs qui l'ont tous refusé parce que c'était pas assez abouti. Sauf, enfin, tout le monde l'a refusé, mais l'école des loisirs nous a renvoyé une lettre beaucoup plus personnalisée que les autres parce que les autres c'était une lettre type dactylographiée. Nous avons pris connaissance de votre projet, mais il ne s'inscrit pas, etc. Bon. Et là, il y avait, en plus de ce petit mot dactylographié, un petit paragraphe manuscrit nous disant que l'histoire était sympa, que c'était amusant, mais que c'était beaucoup trop long, que les illustrations n'étaient pas assez abouties, mais qu'on pourrait recommencer en se conformant à tel ou tel format. Et donc, on s'est dit, on va essayer. On va essayer de suivre ces indications-là.
Et ça a marché.
Et là, au deuxième coup, ça a marché.
Alors, c'était votre premier livre. Ça s'appelait... Enfin, ça s'appelle toujours, d'ailleurs. Les loups ne grimpent pas aux arbres. Hein, c'était en 2005. à l'école des loisirs, donc justement. Ensuite, il y a eu Moi Dilatope en 2007, toujours même éditeur. Ensuite vient Tartatou en 2008.
Voilà.
Toujours à l'école des loisirs. Et puis enfin, donc en 2010, celui dont on va parler, ça y est, enfin, Vladimir Sergueïevitch, ou la quête héroïque du mangeur de pommes.
Voilà.
Il y a un titre avec un petit, une petite phrase dessous. Hein. Voilà, ouais. Pour expliquer un petit peu qui est Vladimir. Et donc, on peut dire que le succès de vos livres jeunesse, parce qu'apparemment, ce sont des succès à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, celui-ci est très, très plaisant à lire. Vous avez su garder, cela vient peut-être de... que vous avez su garder votre âme d'enfant, Mathieu. Et c'est un compliment, un complètement compliment. Ça,
sans doute. Hein, en fait, on me dit souvent que je n'ai pas complètement grandi. Hein, que je,
bon. Bah, tant mieux. Hein.
Ouais, l'éditrice qui a accepté Vladimir Sergueïevitch m'a dit que j'avais l'esprit d'un garçon de 10 ans.
Ah,
voilà. Alors, je ne sais pas comment il faut prendre ça.
Si, je le prends
comme un compliment.
Oui, voilà. Tout à fait.
J'imagine que ça voulait dire que je pouvais m'adresser assez naturellement à ce type de public. Mais
oui, puis que vous savez ce qui va leur plaire, parce que moi, genre, j'ai beaucoup souri hein, en lisant votre livre. Bon, pourtant, j'ai pas 10 ans, hein, je n'ai plus 10 ans, mais quelque part, j'ai dû aussi, moi, garder également une part de... C'est bien de garder, d'ailleurs, une part d'âme d'enfant.
De toute façon, je pense que c'est indispensable pour écrire pour les enfants.
Bah, oui, puis pour savoir l'apprécier quand on est grand, pour la lecture, quoi, hein, parce que bon, voilà. Alors, Vladimir Sergueïevitch, donc, comme je disais, de Mathieu Sylvander aux éditions L'école des loisirs. Donc, c'est un roman jeunesse plein d'imagination. Moi, je trouve que vous avez beaucoup d'imagination pour écrire, pour trouver des trucs, des histoires pareilles, Mathieu. Donc, celui-ci est illustré par Anaïs Vaugelade, qui est une illustratrice jeunesse. Connu, réputé. Donc avec des beaux dessins en noir et blanc, c'est assez original. Hein, ils sont très beaux. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, ils sont. Moi, j'ai beaucoup aimé quoi. Ils sont très représentatifs de votre texte.
Ouais.
Et puis elle a beaucoup de crayons. Quoi,
ah oui,
comme
tout
on
à
dit,
fait.
Hein,
j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup le papa de Vladimir, hein, le grand loup. Alors, ce livre est dédié à Lucas, donc votre dernier fils, votre petit. Voilà. Donc et c'est un livre, comme je disais, plein d'humour, plein d'imagination. Alors, le lieu, ça se passe dans les forêts noires de l'Oural, les noires forêts, voilà. Et est-ce que c'est un lieu que vous avez été ou pas du tout ?
Pas du tout, non, je n'ai jamais mis les pieds en Russie.
Bon.
Mais j'avais envie de situer l'action de cette histoire dans des forêts sombres. Avec des loups, des créatures monstrueuses. Je me suis dit que l'Oural, ça faisait bien l'affaire.
Voilà, tout à fait. Alors, les personnages, justement, le principal, c'est Sergueï Ivanovitch, le noir seigneur de ces noires forêts, justement, le maître absolu. C'est un loup tout noir, énorme, et dont on suppose que même la langue est noire.
Oui, mais personne ne l'a jamais vu. Donc,
Parce que personne n'est revenu pour en parler. Hein, n'est-ce
ceux
pas
qui l'ont vu
c'est
ne sont pas
loup,
revenus.
Hein, voilà. Et oui, voilà, il ne faut pas oublier, c'est un loup. Alors, tout le monde le craint, bien sûr, sauf Vladimir Sergueïevitch, son fils unique, et aussi les Bradbor, je ne sais pas quoi, c'est un nom imprononçable, un peuple au nom imprononçable.
Je ne sais pas le prononcer non plus.
Vous non plus. D'accord. D'ailleurs, à lire, ce n'est pas évident, hein, ce nom. Hein.
Non.
Ça change d'orthographe tout le temps.
À chaque
tout
fois. Oui, à chaque fois. Il n'y a pas deux orthographes pareilles.
Tout à fait. Donc vraiment, c'est vraiment impossible à se rappeler et à prononcer. Ah, puis il y a aussi la cousine de Vladimir, Natacha, et puis Igor, leur précepteur, un vieux blaireau.
Oui, un vieux blaireau myope et radoteur que j'aime beaucoup.
Un vieux blaireau myope, d'ailleurs, qui va oublier ses lunettes sur sa table de nuit, alors qu'il aurait mieux fait de les prendre. On va le voir. Alors, l'histoire. Il y a donc un problème, hein, puisque Vladimir, le jeune loup, ne mange que des pommes et jamais de viande.
Il mange quand même quelques autres légumes. Hein.
Oui, voilà, des pommes, des carottes,
des navets.
Oui, mais enfin, pas
salades.
De viande du tout.
Non, pas de viande.
Bon, pour un loup,
viande.
C'est quand même assez... c'est improbable, hein, quand même. Hein.
C'est ennuyeux, oui.
C'est ennuyeux, hein, c'est insolite. Alors, pour solutionner, je vais y arriver, ce problème, Igor, donc, le précepteur, a une idée. que Vladimir se lance dans une grande quête héroïque à travers les grandes forêts noires de l'Oural et qu'entre autres, il trouve les bras de bord, au nom imprononçable, dans le marais maudit et qu'il les combatte et ramène leur peau. Et comme l'avait fait d'ailleurs, on va l'apprendre, son grand-père Ivan.
Oui, alors on ne sait pas si c'est son grand-père, c'est un ancêtre. C'est un ancêtre.
Ouais. Oui, mais si Sergueï Ivanovitch s'appelle Ivanovitch, il était fils d'Ivan.
Ah, pas forcément, il peut être aussi son arrière-petit-fils, simplement.
Ah,
voilà.
Oui. Bon, nous voilà partis dans la généalogie des loups.
Des loups de l'Oural, voilà.
De l'Oural, alors là.
On ne sait
là,
pas trop.
Oui, non, effectivement. Alors son père, bon par contre qui lui, voilà, Sergueï Ivanovitch, le grand loup noir, donne son accord donc pour cette quête en lui disant « va, vois et reviens hein, ». Ça m'a fait penser à Jules César, hein, un petit peu modifié. C'est un petit clin d'œil, j'imagine.
Oui, comme beaucoup.
Voilà,
beaucoup,
oui, il y a pas beaucoup mal de clin d'œil. Beaucoup d'humour, beaucoup de clin d'œil. Alors Vladimir donc part donc faire cette quête héroïque avec Natacha, sa cousine, et Igor, le précepteur. Et quantité, bien sûr, de pommes, de carottes, du poivre, car cela peut s'avérer utile, hein, on le découvrira dans le livre.
Oui, on va peut-être pas le dévoiler.
Non, mais ça peut, voilà. Et puis aussi, voilà, des allumettes, enfin voilà, de quoi se chauffer le soir pendant cette longue quête héroïque.
Ils partent quand même pour plusieurs jours, il faut
genre
qu'ils soient bien équipés.
Hein.
Voilà, c'est ça. Plus en camping sauvage que...
Ah oui, camping sauvage.
Il faut qu'ils soient bien équipés, c'est certain.
Oui. Alors le premier jour de la quête héroïque, eh bien, se passe plutôt bien, dans les rires et les chants de marche, hein, c'est genre tout va bien.
Oui, pour l'instant, ils n'ont pas fait de mauvaise rencontre.
Voilà.
Tout se passe bien.
Le deuxième jour, eh bien, c'est la rencontre avec l'ogre.
Oui, ça se passe un petit peu moins bien, mais ils s'en sortent quand même.
Oui, finalement. Il est pas si féroce
frayeurs.
Que ça, cet ours.
Cet ogre,
il
est très féroce, mais il est quand même prudent. Hein, il a compris.
Il est pas téméraire, hein, quand même.
Il a compris qu'on prononce
un certain mot pour que, oups, voilà. Il disparaisse.
Il sait qu'il faut faire attention à la famille de Vladimir Sergueïevitch.
Tout à fait. Alors, le troisième jour de la quête, eh bien, c'est la rencontre avec les trolls.
Oui.
Alors, ils sont très nombreux au début et puis très affamés au départ. Hein.
Oui.
Et puis finalement, ils abandonnent les trois héros au milieu de la forêt.
Ils disparaissent curieusement, oui.
C'est curieux, hein.
Oui, voilà, on se demande ce qui se passe. Enfin, on comprend quand même, j'imagine, mais ils disparaissent en les laissant en plan.
Donc, les trolls vont finalement, on va dire, ça se passe bien aussi.
Ouais.
Le quatrième jour, eh bien, c'est la cyclope. Hein. Alors là, c'est original, c'est pas le cyclope, c'est la cyclope. Alors,
oui, c'est une cyclope. Pourquoi n'y aurait-il pas de cyclope féminine, bien sûr.
Oui, c'est vrai, hein, pourquoi pas. Puis alors, elle est très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin d'Anaïs
Beaujolade.
Ouais. Ah oui, de la cyclope avec ses grands cils et son œil larmoyant. Non, vraiment, voilà, j'ai bien aimé la cyclope, alors qui, bon... est une cyclope, hein, donc forcément veut manger tout le monde, hein, aussi.
Comme un forcément. Peu toutes les créatures de ces noires
forêts.
Oui,
d'ailleurs, ouais. Hein, ouais. L'ogre, les trolls. Alors, Natacha va donner des conseils de relooking et de régime à la cyclope, c'est très amusant.
Oui, parce que...
C'est très dans le vent, c'est très actuel.
Cette cyclope se néglige un peu, elle se néglige un petit peu,
oui,
voilà.
Oui,
donc Natacha, qui est sans doute plus propre sur elle... Essaie de lui
va
faire
lui
comprendre,
donner des conseils,
voilà, il faut faire quelque chose.
Et puis, finalement, ça se termine, ils arrivent à passer le pont, hein, puisqu'elle était devant le pont, donc on ne dira pas comment ni... on ne dira pas, on ne révélera rien. C'est
un
secret, il faut lire le livre.
Voilà.
Alors, le cinquième jour de la quête, donc, c'est au bord du marais. Donc là, c'est une rencontre avec un sphinx.
Un sphinx qui n'aurait pas dû être là, parce que...
Bah oui, tout à fait. Il est nouveau, il venait d'arriver. Donc, il n'était pas sur la carte qu'ils avaient en leur possession, les trois héros.
C'est vrai qu'ils avaient une carte qui leur indiquait à peu près les endroits à éviter pour ne pas rencontrer toutes ces créatures monstrueuses. Mais le sphinx, lui, n'était pas sur la carte. Il était nouveau, voilà.
Voilà, il venait d'arriver. Mais bon, il veut quand même les manger aussi, hein, de toute façon.
En leur faisant passer des épreuves, comme
le
sphinx.
Voilà, j'aurais pas trouvé la réponse.
Ah, c'est une énigme.
Je pensais à carrément autre chose. Moi.
C'est une énigme.
C'est exprès. Hein. Ouais, bah oui. Et alors l'épreuve aussi. Alors là, l'épreuve. Alors comme quoi, ayez toujours des pommes sur vous.
Oui, c'est très 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 bon pour la santé et même pour la survie dans ce cas-là.
Ah oui, là c'était une question de survie. Là, tout à fait. Hein. Donc voilà. Donc le sphinx. Ma foi, tout s'est bien passé aussi. Et enfin, l'avant-dernier chapitre, hein, eh bien, c'est le chapitre chez les bras de bord.
Voilà.
Et là, eh bien, on ne peut pas en dire plus. Hein, parce
non, ce serait malvenu. Hein.
Oui, voilà, oui, il faut laisser tout, le suspense.
Tout repose sur
bout.
Cette rencontre.
Bah,
voilà.
Oui, j'ai vraiment adoré. Quoi. Vous avez beaucoup d'imagination, hein, Mathieu. Alors, on peut juste dire qu'il y a une morale un peu à cette histoire.
Oui,
parce que, comme le dit Igor, le précepteur, quand ils reviennent hein, ensuite, ne pas se fier aux apparences et à cœur vaillant, rien d'impossible.
Oui, voilà. Il faut pas. C'est pas parce qu'on est un petit loup végétarien qu'on ne peut pas être vaillant et
tout à fait. Et
affronter,
pas se fier,
ouais, voilà.
Aux apparences, tout à fait. Tout au long d'ailleurs de l'histoire, c'est un peu ça hein, qui ressort. Hein,
oui.
Alors, c'est un livre, comme je disais, plein d'humour, plein d'imagination, donc un vrai régal pour les petits. Alors, comme c'est bientôt les vacances, je vous le conseille de l'acheter et de le mettre dans les valises de vos enfants. Et puis, pour vous aussi, hein, si vous leur lisez l'histoire, vous allez vous régaler également. Donc, c'est Vladimir Sergeïevitch aux éditions L'École des loisirs, écrit par Mathieu Sylvander. Alors, Mathieu, un autre, à quand, un nouveau livre jeunesse?
Alors,
à l'école des loisirs.
Oui, oui. Alors, il y en a un qui paraîtra au printemps prochain. Donc, c'est assez long. Hein. Il est terminé depuis un bout de temps déjà, mais il se trouve qu'il ne rentrait pas complètement dans le cadre d'une collection existante. Et ils ont dû, pour ce livre, faire des essais techniques, changer les couvertures, changer le papier. Et du coup, ça a pris beaucoup de retard. Mais il paraîtra donc bien au printemps prochain.
D'accord.
Et ce sera illustré par un jeune homme plein d'avenir, je pense, qui a fait des dessins magnifiques, qui est complètement inconnu encore. Hein. Ce sera son premier
D'accord.
livre. Et ça vaudra vraiment le coup.
Et un illustrateur parisien ou toulousain?
Non, c'est un... Bah, en fait, il est au doigt, mais il travaille à Paris en tant que graphiste. Voilà.
Ok. Donc, c'est au printemps prochain. Bah, j'espère bien que vous reviendrez sur Radio Occitanie dans Page à Page nous en parler. Hein.
Oui, bah, j'espère bien. Et au lieu de se passer dans les forêts de l'Oural, ça se passera dans le désert égyptien.
Ah oui, d'accord.
On change complètement de décor.
Il y aura un sphinx aussi?
Eh non, il n'y aura pas de sphinx. Il y aura une momie.
Il y en avait dans l'Oural, mais il n'y en a pas en Égypte, finalement.
Non.
Alors, Mathieu, merci beaucoup donc, pour d'être venu sur Radio Occitanie à Page parler de votre livre, donc Vladimir Sergeïevitch.
Merci
et donc,
à vous.
On espère vous revoir très bientôt, donc au printemps prochain ou tout du moins avant l'été prochain, dès qu'il sera sorti. Donc, vous avez l'intention de continuer dans l'écriture entre deux études cartographiées de secousses dans les Pyrénées.
Je vais continuer à mon rythme, hein, parce que je n'ai pas tant de temps que ça, du coup, puisque j'ai... C'est quand même un métier, une famille,
enfants,
une maison.
Tout à fait.
Mais j'espère bien continuer, bien sûr.
Et ben, pour notre plus grand plaisir et le plus grand plaisir des enfants. Alors, merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Claire.
Et puis, la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison de l'émission Page à Page. Alors, ça sera une émission un petit peu spéciale, puisque j'ai envie de rendre hommage à Denis Sigur, qui nous a quittés bien trop tôt, il y a quelques mois. Et donc, je parlerai de l'auteur, de l'homme, de l'ami qu'il a été, avec Sandrine Foller, artiste toulousaine, et Gérard Lapagesse, auteur jeunesse, qui sont tous les deux des amis de Denis. Donc, la semaine prochaine, émission Denis Sigur. Voilà. On se quitte avec une chanson de Georges Brassens. Mathieu, vous aimez bien Georges Brassens?
Oui.
Alors, vous l'avez choisi. J'espère que c'est oui. Edgar me le confirme.
Edgar
merci, Edgar. Donc, vous dites le titre, Mathieu?
La princesse et le croque-note.
Voilà, La princesse et le croque-note de Georges Brassens. Merci, Mathieu.
Merci, Claire.
Bonne semaine à tous. Adiciats.
Jadis, au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis, insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était les lits. It. la fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tareux, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse. Comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un somptueux berceau, à tout hasard on l'appelait princesse. Or, un soir, Dieu du ciel, protégez-nous, la voilà qui monte sur les genoux du croque-note et doucement soupire. En rougissant quand même un petit peu, c'est toi que j'aime, et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Tout beau princesse, arrête un peu ton tir, j'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence, et je ne suis pas chaud pour tâter de la paille humide du cachot. Mais croque-note, je dirai rien à personne. N'insiste pas, fit-il, d'un ton railleur. D'abord, tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant, alors princesse est partie en pleurant, chagrine qu'on ait boudé son offrande. Il n'y a pas eu détournement de mineur, le croque-note au matin de bonheur, à l'anglaise a filé dans la charrette. Les chiffonniers, en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette.